la guerre, évidemment, à des uniformes. Rappelons quand même que 14-18, ça a été un peu toute l'Europe sans tissu, beaucoup d'hommes qui meurent, beaucoup de blessés. Donc on a plus des uniformes qui viennent tendance qu'une cravate qu'on va garder pour les événements quand on revient dans le civil. Et puis qu'on va travailler en petits nœuds papillons. C'est aussi l'arrivée des États-Unis, de la musique, du jazz, avec des petits nœuds papillons très droits, très fermés, qui est exotique. C'est très moderne parce qu'un minuscule tissu, les papas, les mecs avaient des grandes cravates souples en 1900-1910. Tout d'un coup, ils voient leur fils porter un nœud papillon qui fait 3 cm de large, les tout petits trucs. Donc, c'est minimaliste. Donc, le tissu est tout petit pour les nœuds papillons, qui va devenir une cravate un peu plus longue. Certains d'entre nous ont vu peut-être des épisodes de Ma sorcière bien-aimée, le fameux Jean-Pierre, un peu stupide mais tellement gentil, son mari, qui a une petite cravate étroite. Tous ces films années 60 américains, vous retrouvez toujours une cravate très étroite, très fine. Puis la cravate va devenir plus grande dans les années 50-60. Il y a les zazous, fin 45-50, c'est une période très courte. Les hommes vont porter des pantalons très larges avec une cravate très très large, un peu comme de masque, vous voyez les références films. Et puis par la suite, les années 80, enfin 70-80, on va encore avoir des cravates relativement larges parce que l'économie marche bien, parce que comme la jupe est longue, les cravates sont larges, les cols sont larges, les pelles à tarte de 75 à 85, c'est aussi inhérent à une culture, à une période où l'économie fonctionne, on trouve un travail, on trouve un appart, etc. On se pose pas de questions. Donc les volumes sont grands quand l'économie marche bien. C'est la même chose avec les cravates. Et puis, ça va devenir plus étroit, année 2000 à nos jours. Vous avez une cravate qui est porteuse de messages parce que tous les clubs de sport, mais tous les grands groupes, même les Harry Potter, ont la bordeaux et jaune qui fait lien avec l'endroit où je vais faire mes études, etc. Donc, tous les collèges anglais ont une cravate qui s'identifie à une appartenance. Les hommes politiques en ont. Je rappelle juste pour la petite histoire que souvent, on voit chez les hommes politiques, jusque dans les années 2010-15, il y a une dizaine d'années, les cravates toujours avec une rayure positive, une rayure côté gauche, qui monte côté gauche. C'est une rayure bordeaux à rayure bleu marine, c'est une cravate marine à rayures bordeaux ou bleu et blanc, vous les voyez, ces cravates rayées, je pense. Elle monte côté gauche, pourquoi ? Parce que c'est le côté sens de lecture de notre œil, nous, en Europe, comme on lit de gauche à droite. Donc, quand on donne un message, quand on est un homme politique, on dit voilà, il faut voter pour moi ou faites cette loi, etc. Les gens vous écoutent plus, l'œil rentre dans la cravate, monte. Alors, c'est un peu psychologique ce que je suis en train de vous expliquer, mais c'est une vraie histoire d'habits. Ça s'appelle de la psychologie de vêtements et ça fonctionne. C'était étudié par des grands aux États-Unis, en Europe. Les hommes politiques portent des cravates rayées à gauche, côté gauche montante, pour que le message votre œil rentre dans la cravate et monte à la bouche. J'écoute puisque je regarde la bouche. Maintenant, on a un petit peu dépassé ça parce qu'on sait que c'est une technique de vente comme une autre pour écouter un discours. Et on n'est plus sur des cravates unies. Regardez tous les G8, G20, regardez les Sarkozy, les Macron, les présidents d'Allemagne, de France, d'Italie, d'Angleterre. Ils ont une cravate marine ou bordeaux ou grise sur un costume uni. Un petit peu comme chez nous aussi d'ailleurs. C'est devenu presque un uniforme alors qu'on n'a jamais été aussi libre que maintenant.